Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, 1500 hommes appelés en renfort et ce n'est qu'un début. Le gouvernement muscle son dispositif policier autour de Notre-Dame-des-Landes. La question de l'aéroport sera abordée et peut-être tranchée ce matin au Conseil des ministres avec un point d'interrogation, le sort de la ZAD et de ses habitants. Un redressement à 2 milliards d'euros pour la Société Générale, dernier épisode en date de l'affaire Kerviel. Le fisc estime que la banque n'avait pas à bénéficier d'une ristourne fiscale à l'époque. Gouvernement d'un côté, gardien de prison de l'autre, les négociations ont débuté hier à Paris pour tenter de sortir de l'impasse. C'est l'un des nombreux sujets que vous aborderez avec votre invité, Nicolas, à 8h20. C'est la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.
Mes questions donc, puis les vôtres, vers 8h40. Intervenez dès maintenant au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, un cas de harcèlement présumé dans l'armée. Le Grand Paris Express est-il en train de dérailler? La Cour des comptes s'en inquiète. Le sort de Mathieu Gallet entre les mains du CSA. Le patron de Radio France est assis sur un siège éjectable. Et puis le rugby, la première liste aujourd'hui du tout nouveau sélectionneur du 15 de France, Jacques Brunel.
France Inter.
Pas encore de fumée blanche donc, mais des CRS qui débarquent par centaines dans la région, nouveau signe de l'imminence de la décision sur Notre-Dame-des-Landes. Le gouvernement envoie des renforts aux abords de la ZAD, mais aussi à Rennes et à Nantes où l'on redoute des manifestations, quel que soit d'ailleurs le scénario retenu. 1500 hommes sont déjà arrivés sur place. Ils seront le double dans quelques jours, Emmanuel Leclerc.
On en est à 5 compagnies de CRS déjà sur Nantes. 4 supplémentaires doivent arriver ce matin, affirmait une source policière hier soir. Il y en a autant à Rennes et des renforts sont encore attendus ce week-end en fonction des besoins. Côté gendarmes mobiles, l'ordre de départ avait été donné lundi matin. Et hier, ce sont 7 escadrons qui sont arrivés dans les environs de Notre-Dame-des-Landes. Au total, ce sont donc dans un premier temps plus de 1500 agents qui ont été mobilisés pour cette journée de mercredi. 3000 sont attendus d'ici le début de semaine prochaine. Les CRS dans les centres-villes et les gendarmes mobiles pour contenir éventuellement la colère des zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Pour le reste, les brigades habituelles de gendarmerie et les unités de police à Nantes et à Rennes ont déjà leur planning spécial Notre-Dame-des-Landes, confiait un officier en fin de semaine dernière. Ensuite, tout dépendra du scénario choisi, de l'attitude des opposants. On sait que la direction générale de la gendarmerie nationale est prête à engager près de 40 escadrons de gendarmes mobiles pour une évacuation, plus encore qu'en 2012 lors de la première opération finalement annulée à Notre-Dame-des-Landes.
Et dans la série Les petits signaux de fumée avant l'annonce, il y a aussi le communiqué de l'Élysée hier soir annonçant que le Conseil des ministres ce matin débattra du sort de l'aéroport nantais. Sort qui semble déjà scellé, c'est bien l'hypothèse d'un aménagement de l'aéroport actuel qui tient la corde et pas la construction du nouveau dans le bocage nantais. Mais quel que soit le scénario retenu, il faudra aussi régler la question de la ZAD, l'évacuer de force, comme le dit le gouvernement, ou alors tenter la méthode douce, c'est ce que demande aujourd'hui un proche de Nicolas Hulot, le député Mathieu Orphelin. C'est ça, dit-il, ou prendre le risque que les choses tournent mal.
Moi j'ai peur de cette évacuation violente, je pense que c'est une opération à risque. Je vais faire moi tout mon possible pour convaincre que effectivement on peut revenir à l'ordre public sans évacuation violente. C'est possible, ça va prendre quelques semaines, il faut l'assumer. Et moi je pense que dans cette option, le gouvernement peut dire effectivement je prends la décision de faire plutôt le réaménagement de Nantes Atlantique et je donne un mois, deux mois, trois mois pour régler effectivement le retour à l'état de droit à Notre-Dame-des-Landes. Et ce serait vraiment une super façon pour l'État de montrer sa force en disant on réussit après des années d'errance, nous on va réussir le retour à l'ordre public mais sans évacuation violente. J'ai pas envie que l'histoire de Notre-Dame-des-Landes elle se termine avec un mort sur le site.
Mathieu Orphelin, député de La République En Marche, au micro de Julien Lenglet.
Et revoilà l'affaire Kerviel.
Nouvel épisode ce matin dans ce feuilleton décidément sans fin. Le canard enchaîné révèle que la Société Générale est sous le coup d'un redressement fiscal. Le fisc veut récupérer plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards 200 millions précisément. Bonjour Corinne Audouin.
Bonjour Marc.
Cette somme, elle correspond à la ristourne fiscale dont la banque avait bénéficié à l'époque.
Oui, souvenez-vous, au moment de la découverte des transactions effectuées par Jérôme Kerviel en 2008, la banque déclare avoir perdu dans l'affaire 4,9 milliards d'euros. En première instance, puis en appel en 2012, l'ex-trader est condamné à rembourser intégralement cette somme au titre des dommages et intérêts. Impossible, évidemment. Pour se remettre à flot, la Société Générale a bénéficié dès 2010 d'un crédit d'impôt prévu pour les entreprises déficitaires et victimes de fraude. Une belle ristourne fiscale de 2,2 milliards d'euros. Mais changement de jurisprudence, en 2014, la Cour de cassation annule les dommages et intérêts réclamés à Kerviel au vu des failles et des négligences dans le système de contrôle de la banque. Dit la justice, le trader n'est pas le seul responsable de ces pertes abyssales. En septembre 2016, la cour d'appel de Versailles ramène finalement la somme due par Jérôme Kerviel à un petit million d'euros. Selon le Canard enchaîné, donc, le fisc n'a pas traîné à tirer les conclusions de cette décision. Si la banque est responsable en partie de ses dettes, eh bien, elle n'a plus droit à sa ristourne Kerviel. Au printemps dernier, selon l'hebdomadaire, le fisc notifie à la Société Générale un redressement fiscal de donc 2,2 milliards d'euros. Mais le feuilleton Kerviel, rassurez-vous, ne va pas s'arrêter là. La banque va certainement contester ce redressement devant la justice administrative.
Ce qui vous donnera l'occasion, Corinne Audouin, de revenir dans ce journal pour nous expliquer tout ça. Merci beaucoup, Corinne. La pression retombe d'un cran dans le conflit des prisons. Deux des trois syndicats à l'origine des blocages appellent à suspendre le mouvement aujourd'hui, le temps de poursuivre les négociations entamées hier soir au ministère de la Justice. Elles reprennent à l'instant. On en reparlera avec Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, dans quelques minutes. Une femme face à la grande muette, nouvelle affaire de harcèlement sexuel présumé. Cette fois dans le centre de recrutement de la marine de Metz. Une ancienne secrétaire avait saisi la justice en 2012 pour dénoncer le comportement de son supérieur. La justice a conclu à un non-lieu en mai dernier. Mais l'affaire Weinstein l'a convaincue de relancer la machine judiciaire. Cécile Soulé.
Parce que le dossier est lourd, appelle son avocate qui cite en exemple le surnom dont sa cliente était affublée, Petit Chat ou Little Minou, dans ce centre de recrutement de l'armée à Metz où elle était la seule femme. Pour Maître Momont, la connotation sexuelle est évidente, tout comme le mot de passe du service que la jeune femme de 25 ans à l'époque devait répéter régulièrement à la demande de son supérieur hiérarchique. Pour sa défense, les faits sont caractérisés, surtout à la lumière de l'affaire Weinstein.
Imposer à quelqu'un un environnement de travail où, au quotidien, vous avez des surnoms inappropriés, des blagues sexistes, des mots de passe à répéter, des attitudes malveillantes. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. On est dans un cadre de travail. Je m'interroge pour savoir quelle serait la réaction d'un homme qui serait seul dans un contexte de travail purement féminin avec des femmes qui parleraient toute la journée de leurs règles, de leur vagin et pour voir si ça le ferait rire. Ce qui compte, c'est le ressenti de la personne. Et si la personne ne l'accepte pas, ça constitue des violences.
L'avocat du supérieur mis en cause avance de son côté que les violences ne sont pas étayées par les faits, qu'il s'agissait simplement de blagues dans un contexte convivial. L'avocate générale demande aussi que le non-lieu soit confirmé et que personne ne soit jugé.
Voilà, et on saura dans deux mois ce que la justice décide. Quant à l'homme qui est accusé, il a été sanctionné par l'armée et muté dans un autre service. C'est l'un des plus gros coups de filet de ces dernières années. 539 kilos de cocaïne saisis par les douanes au Pertus, à la frontière entre la France et l'Espagne. La drogue était cachée dans un camion. Il y en a pour 30 millions d'euros.
Il est 8h08, trop cher. Calendrier intenable. La Cour des comptes marque étrille le futur Grand Paris Express.
Oui, c'est l'immense chantier qui doit permettre de créer 200 km de nouvelles lignes de métro en Île-de-France, mais la facture s'envole d'après les sages qui ont déjà chiffré le dérapage à 13 milliards d'euros en plus du devis initial. Hélène Filly.
C'est désormais un chantier à 38,5 milliards d'euros. La Cour des comptes reprend une évaluation financière de la Société du Grand Paris elle-même en juillet dernier. Plus le projet avance, plus les données s'affinent et plus les coûts dérapent. Il faut dire que le projet est ambitieux. 4 nouvelles lignes de métro, 68 nouvelles gares pour désengorger le réseau actuel. Et tout ça devrait être opérationnel au moins en partie pour les Jeux Olympiques de 2024. Là-dessus, les sages ont de sérieux doutes. En tout cas, la Société du Grand Paris, qui est donc maître d'œuvre, se sait engagée dans une course contre la montre. Pour preuve, sa volonté de recourir à un nombre de tunneliers inédits, très demandé en ce moment par d'autres très grands projets souterrains comme le Charles de Gaulle Express ou le Lyon-Turin. Ils font aussi grimper la facture. Elle est si salée que pour la Cour, elle va immanquablement peser sur la trajectoire des finances publiques du quinquennat. Ça n'étonne pas les bons connaisseurs du dossier qui affirment que le chantier a été sous-budgété dès le premier jour. Pour les sages, il faut aujourd'hui revoir la gouvernance et le calendrier du projet.
Il faut réformer la GPA. 110 personnalités signent une tribune ce matin sur le site du Monde pour réclamer une réforme urgente. Aujourd'hui, la GPA est interdite en France. Parmi les signataires, l'historien Pierre Rosanvallon, la philosophe Elisabeth Badinter ou encore l'humoriste Muriel Robin. Les signataires ne demandent pas l'autorisation de la GPA en France, mais ils souhaitent que le débat puisse s'ouvrir sereinement dès demain lors des états généraux de la bioéthique. Ils réclament également une convention action internationale pour lutter contre l'exploitation des mers porteuses. Des rafales à 225 km/h enregistrées cette nuit en Corse, où les vents vont encore se déchaîner aujourd'hui. Par précaution, les écoles seront fermées, les transports scolaires annulés et l'université de Corte n'ouvrira pas non plus ses portes. La Corse est en vigilance orange jusqu'à 16h, tout comme les Alpes-Maritimes et le Var. Et puis à La Réunion, cette fois, c'est un cyclone qui menace. L'île est en alerte à l'approche de Bergita, c'est son petit nom. Il devrait frapper La Réunion demain après être passé sur l'île Maurice.
Les 8h10, Marc, peut-on diriger la Catalogne depuis la Belgique?
C'est aujourd'hui que le nouveau Parlement régional catalan se réunit pour la première fois à Barcelone et les indépendantistes arrivés en tête du scrutin ont bien l'intention de défier à nouveau Madrid. Ils sont tombés d'accord hier soir pour confier les clés de la région au président sortant, Carles Puigdemont. Petit problème, Marie-Hélène Ballestero, il est toujours en exil en Belgique.
Après des semaines de négociations et de suspense, les indépendantistes catalans semblent être parvenus à un accord. Premier point de cet accord, les deux formations vont soutenir la candidature de Roger Torrent, député de ERC, la gauche républicaine catalane, qui devrait donc devenir le prochain président du Parlement catalan. Deuxième point de l'accord, les indépendantistes ont décidé d'investir Carles Puigdemont à la tête du nouveau gouvernement régional alors qu'il se trouve toujours à Bruxelles. Or, lundi dernier, le chef du gouvernement espagnol Rajoy a lancé un avertissement aux indépendantistes. L'autonomie de la région restera suspendue si Puigdemont tente de gouverner depuis Bruxelles. Quelques heures plus tard, les services juridiques du Parlement catalan ont rejeté aussi l'idée que Puigdemont puisse être investi via Skype. Selon eux, l'investiture doit se faire en présence physique du candidat, mais il ne s'agit que d'une recommandation. C'est le nouveau bureau du Parlement catalan qui va devoir se prononcer. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
La Chine, toujours sous la menace d'une marée noire, le pétrolier qui a coulé à 300 km au large de Shanghai continue de déverser sa cargaison d'hydrocarbures en mer de Chine. Deux nappes de plus de 100 km² sont déjà signalées dans une région qui est aussi la principale zone de pêche pour les bateaux chinois. Dominique André a voulu savoir ce qu'en pensaient les grossistes et les restaurateurs qui viennent se fournir en poissons sur le marché de Pékin où la marée noire visiblement ne fait peur à personne.
Les poissons de Zhoushan, la grande zone de pêche industrielle chinoise en mer de Chine orientale, continuent d'arriver chez les grossistes. Monsieur Zhang vend ses stocks de poissons malgré la marée noire. On peut même lire sur un stock de poissons cette étiquette « Poissons frais de Zhoushan ».
Tous ces poissons devant vous viennent de Zhoushan. Et quant à la pollution de Zhoushan dont vous parlez, on n'a pas suivi les infos, donc on ne sait pas. Mais il y a des gens qui nous vendent ces poissons, donc on doit bien les vendre à notre tour. C'est plutôt à la source qu'il faut contrôler. Nous, nous ne sommes pas bien au courant comment ça se passe. Et ça dépend aussi quand ces poissons ont été pêchés. C'est possible que ces poissons aient été pêchés bien avant la fuite de pétrole. Il n'y a rien sur les réseaux sociaux comme WeChat. Si vous ne m'en aviez pas parlé, je ne serais pas au courant.
Pour le moment, le gouvernement chinois n'a pas donné de consignes, en tout cas pas publiquement, malgré les inquiétudes des experts, et notamment de Greenpeace, qui rappellent que la zone touchée est un lieu de reproduction important pour plusieurs espèces de poissons commercialisés. Les clients font avec.
Oui, j'ai vu ça aux infos, c'est sûr, s'il y a des polluants dans la mer, il y aura des conséquences sur les produits, et si on les mange, c'est pas bon pour la santé. Je n'ai pas posé la question au vendeur, mais je pense que si on en mange qu'une fois ou deux, ce n'est pas si grave.
La marée noire en mer de Chine orientale s'ajoute à d'autres types de pollution dans une région où l'écosystème est déjà dégradé. Pékin, Dominique André, France Inter.
1,90 m pour 108 kilos, un peu de cholestérol, mais pas de diabète. Voilà le bulletin de santé de Donald Trump, donné cette nuit par le médecin de la Maison Blanche. Il note tout de même un léger surpoids. D'après le médecin, Donald Trump, qui n'y était pas obligé, a tenu à passer des tests cognitifs qu'il a réussi, a-t-il aussitôt précisé.
Il est 8h13, restera ou pas le sort de Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, est désormais entre les mains du CSA.
Réunion ce matin au Conseil supérieur de l'audiovisuel alors que le patron de Radio France est doublement fragilisé par sa condamnation avant-hier, 1 an de prison avec sursis pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA, et par le gouvernement. Sa ministre de tutelle Françoise Nyssen l'a lâché hier en l'appelant à tirer les conséquences de sa condamnation. Le CSA va donc juger sous la pression de l'exécutif, situation que dénonce la spécialiste des médias Julia Cagé.
On a un audiovisuel public qui est relativement indépendant en France, hein, c'est pas le cas dans tous les pays, c'est ce qui fait aussi que l'audiovisuel public français bénéficie de la confiance de ses auditeurs. Et là, vous avez une intervention directe de la ministre de la Culture qui non seulement fait pression sur Mathieu Gallet, mais fait également pression sur le CSA. Alors bon, après, on peut discuter pour savoir si oui ou non Mathieu Gallet devrait démissionner. Moi, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais en tout cas, si cette discussion doit avoir lieu, c'est au sein du CSA et indépendamment de toute pression du ministère de la Culture. Ça n'augure rien de bon pour la suite parce que si Mathieu Gallet démissionne, cette démission sera politique. Donc tout le monde s'interrogera sur la légitimité finalement de la démission de Mathieu Gallet. Puis alors, la question qui va se poser derrière, c'est quelles vont être les conditions de la nomination de son successeur.
L'économiste des médias Julia Cagé avec Cyril Graziani. Un nouveau dauphin en Ligue 1 à l'issue des premiers matchs de la 21e journée. C'est Marseille qui prend la deuxième place grâce à sa victoire sur Strasbourg 2-0. L'OM devance Monaco, tenu en échec par Nice, 2-2. Et puis c'est l'heure des premiers choix pour le nouveau patron du 15 de France, Jacques Brunel, propulsé sur le banc des Bleus en lieu et place de Guinovès. Il va donner aujourd'hui le nom des 31 joueurs appelés pour le premier match du tournoi des 6 nations. Ce sera face à l'Irlande. Pas de révolution en vue, Jérôme Valle, mais il y aura tout de même quelques changements.
Et pour mesurer l'ampleur des changements à venir, le meilleur indicateur reste comme souvent la charnière. Durant ces 2 années de mandat, Guinovès en avait expérimenté 9 en 21 matchs. Jacques Brunel, lui, devrait faire du 9 avec de l'expérience et de la jeunesse. L'expérience du Clermontois Morgan Parra qui n'a plus joué en bleu depuis 2 ans et la jeunesse du Bordelais Mathieu Jalibert, 19 ans à peine et seulement 11 matchs de top 14. La promotion de néophyte, c'est d'ailleurs un credo de Jacques Brunel qui n'oublie pas non plus qu'une équipe en souffrance a besoin de s'appuyer sur des leaders, un dosage précis qui doit être gagnant très vite, a encore rappelé Jacques Brunel hier.
Le groupe désigné va être important, il nous faut être performant rapidement, il va être important à travers les joueurs qui se constituent quelque chose très très vite, qu'une histoire se crée. Il y a l'annonce qui est importante, puis il y a l'histoire derrière qui va se créer.
En tout cas, le sélectionneur montre des certitudes. Ma liste des 31 est déjà bouclée, nous a-t-il confié. Pas d'hésitation donc, notamment pour confirmer Guillaume Guirado dans son rôle de capitaine. Preuve une nouvelle fois que malgré les apparences, aucune révolution n'est en cours chez les Bleus.
France-Irlande, ce sera le 3 février prochain au Stade de France. Enfin fini les moteurs qui vrombissent chez Ferrari. Nicolas, tout arrive, le constructeur italien annonce qu'il travaille à une voiture de luxe 100% électrique, mais il ne donne évidemment ni la date ni le prix de son dernier joujou.
Merci Marc Fauvel.